Les portes de la connaissance. Une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué.
Écoute-moi, le monde humain, c'est la pagaille. La vie sous la mer, c'est bien mieux que la vie qu'ils ont sous la terre. Le roseau est toujours plus vert dans le marais d'à côté. Toi, t'aimerais bien vivre sous terre. Bonjour la calamité. Regarde bien le monde qui t'entoure dans l'océan parfumé. On fait carnaval tous les jours. Mieux tu ne pourras pas trouver sous l'océan. Sous l'océan, tout c'est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan. Là où ils bossent toute la journée, esclavagés, prisonniers, pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan. Chez nous, les poissons se font la pipe, les vagues sont un vrai régal. Là où ils s'écaillent, ils flippent, à tourner dans leur bocal. Le bocal produit celle d'extase chez le copain cannibale. Si monsieur poisson n'est pas sage,
il finira dans la poêle.
Oh non, sous l'océan, sous l'océan. Y'a pas de gros bouillon, pas de soupe de poisson, pas de marmiton. Pour la tambouille, on leur dit non. Sous l'océan, y'a pas d'hameçon. On déambule, on fait des bulles sous l'océan.
Sous l'océan.
Sous l'océan.
Sous l'océan.
La vie est super, mieux que sous la terre, je te le dis.
Oui, je te le dis. Hi, hi. Tu vois les sturgeons et la raie se sont lancés dans le reggae.
On a le rythme, oui. C'est de la dynamique
sous l'océan.
Friton, oh friton, la carjoula.
La West Coast, la basse, les rois du rap.
Macro, au saxo, le tombo, au bango. Le lieu est le dieu de la soul. La mer, oh dieu, mais gardon, au violon. Les sols, rock'n'roll, le ton, garde le ton. Le bas et le soir se marre et s'éclate. Vas-y, souffle mon doudou.
Ils
ont le sable, ça c'est certain. Nous le jazz band et les copains. On a les crimes flammes pour faire une gym jam sous l'océan. Les limaces des verres au rythme d'enfer sous l'océan. Et les bigorneaux pour donner le tempo. C'est frénétique, c'est fantastique. On est en transe pour que ça balance sous l'océan.
Et oui, oui, chers auditeurs, bonjour, bonjour, bienvenue dans les portes de la connaissance. Vous avez reconnu la chanson Sous l'océan de la petite sirène. C'est justement parce qu'on est dans le thème de l'océan aujourd'hui. Et on est dans un thème qui n'est pas drôle du tout, parce que c'est malheureusement le thème de l'émission aujourd'hui, c'est la pollution marine. Tout ce que les humains peuvent rejeter dans l'océan comme pollution, et on va faire un beau voyage avec Sarah Chouaki, qui va nous parler justement avec Wind of the Ocean, qui est leur association, qui va nous parler des méfaits qui sont produits par les humains. Pourquoi devons-nous lutter contre ça? Parce que la pollution des plastiques dans l'océan est épouvantable et empoisonne les poissons et les mammifères marins. Et nous allons faire un voyage avec elle. Alors bonjour, bonjour Sarah.
Bonjour.
Bonjour. Alors, j'aurais envie de vous demander, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est d'abord, comment vous est-il venu l'idée de faire cette association?
Alors, tout à fait. Donc, l'association, elle a été créée en 2018. Donc, moi, j'y étais pas à ce moment-là. Mais il y avait, en fait, le fondateur historique de l'association qui était engagé dans une autre association qui protège les océans, qui s'appelle Sea Shepherd. Et donc, on en entend pas mal parler avec Paul Watson, notamment, qui ont un mode d'action où ils sont un groupe, on va dire, de militants activistes sur un bateau pour œuvrer pour la biodiversité. Et en fait, lors de ces expéditions, ils avaient constaté qu'il y avait beaucoup de plastique qui flottait dans les océans. Et donc, ils ont voulu en fait garder ce même mode d'action pour lutter contre les plastiques. Et donc, c'est vraiment en constatant cette pollution qu'ils se sont dit, tiens, on va créer donc l'association Wings of the Ocean. Et ça a commencé par l'acquisition justement d'un bateau qu'on a encore aujourd'hui qui s'appelle le Kraken. Et ils se sont dit, on va embarquer des bénévoles qui vont vouloir se mettre avec nous sur la lutte contre le plastique. Et c'est comme ça que tout a commencé, et même si aujourd'hui c'est assez différent.
D'accord. Alors cette association existe depuis combien de temps en fait ? Ça fait combien de temps ?
Du coup, c'était en 2018 que ça a commencé, par justement l'acquisition de ce bateau. Et en fait, il faut savoir que l'association a pas mal changé depuis ce moment-là, parce que notamment quand ils ont commencé à se renseigner sur ce problème, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait 80% des déchets qui sont dans les océans qui proviennent de la Terre. Et donc, c'est pas en fait un problème qui est que lié à la mer. Parfois, on se dit, ça doit être des déchets parce qu'il y a les pêcheurs qui laissent leur filet, ou ça va être les plaisanciers qui vont jeter par-dessus bord des ordures. Mais ça, en fait, c'est une toute petite partie de ce qui se trouve dans l'océan. Donc le problème, entre guillemets, il est vraiment à terre. Et surtout, une fois qu'ils sont dans l'océan, ces déchets ne flottent pas. En fait, il n'y a que 1% qui reste en surface et le reste plonge en fait dans les profondeurs de l'océan. Et donc c'est comme ça, en fait, qu'ils se sont rendus compte que ramasser les déchets à la surface de l'océan, c'était vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Enfin, c'est vraiment le cas de le dire. Donc il y a des bateaux technologiques qui existent comme ça, qui font ça notamment plutôt en Asie. Mais là, en fait, nous, on s'est dit, en fait, il faut plutôt agir à terre plutôt qu'agir en mer pour réduire le problème de la pollution en mer. Et c'est comme ça que l'association a changé. Donc après, en fait, on a installé des missions sur le littoral français, parce que du coup, nous, on opère en France. Ça a commencé en Méditerranée vers Marseille. Et on a gardé ce mode d'action collective à terre. Donc en fait, on accueille des bénévoles qui s'engagent pour un mois minimum, qui vont découvrir un mode de vie justement plus sobre et faire des actions de documentation de la pollution. Donc le principe de l'association, c'est qu'on va ramasser des déchets, mais on ne va pas seulement les ramasser, et bien documenter cette pollution. Donc pour nous, un déchet, c'est une donnée, comme on dit, pour qu'on puisse dire en fait aux scientifiques et aux gouvernements et aux industriels, voilà ce qu'on trouve sur le littoral et qui va finir dans l'océan. Et voilà pourquoi on doit mettre en place des lois, pourquoi on doit changer nos habitudes de consommation. Donc l'ADN de l'association, c'est vraiment sur cette démarche scientifique de documentation et aussi beaucoup de sensibilisation grand public, comme on est aussi en train de le faire là à la radio, évidemment, c'est d'informer le plus grand nombre en fait sur le rôle de l'océan qui est clé et le problème plastique qui provient principalement de nos modes de consommation aujourd'hui.
D'accord. Alors, vous êtes combien dans cette association ?
Aujourd'hui, on est une quinzaine de salariés. On est un peu partout sur le territoire. Du coup, moi, je suis à Bordeaux avec 4 personnes, puisqu'en fait, on a des actions. On a gardé des actions sur ce que nous, on appelle un peu un continuum mer-terre, c'est-à-dire des métropoles au fleuve, au littoral. Donc, on opère, et on y reviendra sûrement, mais sur la Garonne et sur le bassin d'Arcachon, notamment vers Bordeaux. On a aussi des actions à Marseille, donc qui sont à peu près 4 à Marseille. On ouvre aussi des opérations vers Nantes, donc il y a des personnes à peu près à ce moment-là. Et surtout, du coup, on a aussi une dizaine de personnes qui nous rejoignent l'été, puisque c'est à ce moment-là qu'on accueille beaucoup de bénévoles. Et en plus, du coup, de nos équipes salariées, on a à peu près 120 bénévoles mission, c'est-à-dire des gens qui restent au moins un mois avec nous, notamment pendant les périodes estivales. Et en plus de ça, on a une quinzaine d'antennes actives en France, dont à Bordeaux, mais aussi à Marseille, à La Rochelle, à Nantes, à Lyon, et parfois des endroits plus éloignés de l'océan. Et là, en fait, on a aussi des centaines de personnes qui sont actives avec nous. Donc voilà, une petite équipe opérationnelle et une grande équipe quand on intègre nos bénévoles.
D'accord. Alors, comment vous luttez contre la pollution marine, contre les plastiques en mer ? Comment vous luttez ?
C'est vrai qu'on le fait de plusieurs façons. La première, justement, c'est cette fameuse documentation de la pollution, parce que notamment, c'est comme ça qu'ont été mises en place des lois. Par exemple, si on dit aujourd'hui, on n'a plus le droit, par exemple, d'avoir des cotons-tiges en plastique, c'était notamment parce que des associations comme nous remontaient le fait que c'est un des déchets les plus retrouvés sur les plages. Parce qu'en plus, il y a plein de gens qui les jetaient, par exemple, dans les toilettes. Du coup, ça finissait dans les canalisations et ça allait directement après dans l'océan. Donc, en fait, c'est vraiment documenter les produits qu'on retrouve le plus pour essayer de légiférer. Un autre exemple, par exemple, c'était les lingettes, pour, par exemple, les lingettes pour les bébés, pour nettoyer justement leur, les fesses douces. Et en fait, les gens pensent que c'est du papier, alors qu'en fait, il y a du plastique à l'intérieur. Et en fait, ça obstruait pareil sur les circuits en fait, de déchets. Et donc ça, c'est pareil. Par exemple, la marque Mustela a arrêté de produire ces lingettes parce que ça constituait justement un risque pour du coup, la biodiversité. Donc voilà, donc la première chose, c'est vraiment de montrer ce qui échappe au circuit classique et qu'on retrouve le plus. Et sans surprise, c'est principalement du plastique, c'est principalement des bouteilles d'eau. Donc, par exemple, dans un autre exemple qui est assez concret, c'est les bouchons maintenant de bouteilles d'eau qui sont souvent accrochés à la bouteille en elle-même pour éviter la dispersion des bouchons. Donc voilà, donc ça c'est une vraie force, c'est qu'on a besoin de données qui soient assez fiables et assez en quantité assez importante pour que ce soit représentatif de ce qu'on peut communiquer pour des changements systémiques. Donc ça c'est la première façon qu'on a de lutter aujourd'hui. La deuxième c'est l'expérience collective. Nous on est persuadés qu'en fait il faut aussi qu'on montre que c'est possible. Et donc les missions dont je parlais tout à l'heure qui sont du coup là où on rassemble nos bénévoles, elles se veulent aussi des écoles d'engagement ou d'expérimentation. Donc là, on va tester le zéro déchet, le zéro gaspillage alimentaire, et on va peser typiquement les déchets qu'on va produire chaque semaine pour montrer en fait que, bah oui, même en faisant des efforts, c'est compliqué, mais qu'il faut montrer au plus grand nombre que c'est possible de vivre dans une société zéro plastique en allant faire ses courses au vrac, en allant faire sa lessive maison avec du savon de Marseille. Donc en fait, on va expérimenter ça. Et ça fait que nos bénévoles vont eux-mêmes devenir des ambassadeurs parce qu'ils auront vécu une expérience ensemble pour découvrir des nouveaux modes d'action. Et donc, en fait, eux, souvent, quand ils vont rentrer, déjà, ils vont sensibiliser le grand public. Donc, quand ils parlent aux personnes lors des stands qu'on anime ou des festivals auxquels on participe, ils vont pouvoir partager leur expérience et convaincre un peu plus le fait de changer d'habitude. Puis aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à utiliser des gourdes. Ça paraît bête, mais en fait, aujourd'hui, les bouteilles d'eau sont le premier produit vendu en supermarché en France. Et c'est aussi le premier produit qu'on retrouve sur les plages et dans l'océan. Donc, c'est vraiment comment en fait, on démocratise tous ces usages en montrant que c'est facile, que c'est cool peut-être. En tout cas, il y a vraiment ça. Et donc, c'est nos bénévoles qui, à travers cette expérience, vont devenir des ambassadeurs de ce qu'on fait. Et après, on teste de plus en plus des expérimentations, on va dire, au niveau local, parce que nous, on trouve que il y a quelque chose à faire en fait dans chacun des territoires, qui va être en fait de faire des comités de travail d'un point de vue plus institutionnel avec différentes entités diverses et variées. Par exemple, sur le bassin d'Arcachon, on va plutôt essayer de réfléchir sur le sujet de l'ostréiculture, parce que toute l'ostréiculture utilise beaucoup de plastique qui après se retrouve dans les océans, qui pollue, alors que eux-mêmes, ils n'ont pas envie de le polluer parce que c'est aussi comme ça qu'en fait, ils ont leur production. Et donc, en fait, on réunit autour de la table des personnes pour vraiment discuter du problème et essayer de trouver des solutions ensemble et d'expérimenter à un niveau plus local pour après pouvoir dire ça marche, ça marche pas, voilà ce qu'il faudrait faire et essayer de convaincre d'autres personnes, d'agir de cette façon-là.
Alors, comment on peut, je me pose la question, comment on peut retrouver des bouteilles de plastique dans l'océan si, parce que les bouteilles de plastique, on les jette à la poubelle, il faudrait les jeter directement dans l'eau pour les retrouver sur le littoral et pour les retrouver dans l'océan. Les gens jettent véritablement les bouteilles à l'eau ?
Non, en fait, c'est rarement directement dans l'eau. C'est souvent, il y a beaucoup, en fait, la pollution augmente beaucoup avec la consommation à emporter. Ça, c'est vraiment un fléau en fait, qui a augmenté ces dernières années. Finalement, on va plutôt les mettre dans des poubelles en extérieur. Et parfois, le mobilier urbain, comme on l'appelle, n'est pas forcément adapté justement aux intempéries. Donc, ce qui se passe, c'est que même un consommateur qui, par exemple, va le mettre dans la poubelle de tri dans la rue, en fait, si c'est proche du littoral, parfois les poubelles ne sont pas refermées, donc le vent va les emporter. Parfois, c'est les oiseaux qui en fait ouvrent, ou les oiseaux, ou les chiens, enfin les animaux qui vont du coup aller sortir ces poubelles. Après, il y a quand même, donc ça on va dire que c'est un sujet de nombre, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui la production de plastique augmente, donc le nombre de plastique dans les poubelles augmente, et donc le pourcentage qui va finalement se retrouver à cause des intempéries, à cause des animaux dans la nature, va augmenter aussi. Et il y a quand même des comportements malveillants, on le voit aussi parce que ça augmente beaucoup en période estivale, de pique-niques où les personnes ne vont pas forcément repartir avec leur poubelle, ou quand il va y avoir une poubelle qui est pleine, vont le laisser à côté en se disant que c'est pas grave, que c'est à côté de la poubelle, donc c'est presque dans la poubelle. À part que quand on est dans un endroit où il y a du vent, où il y a des animaux, ben encore une fois, ça va se disperser dans la nature. Donc le geste intentionnel peut exister. On le voit beaucoup avec les mégots, par exemple. Parce que les mégots, il faut quand même le savoir, c'est quand même du plastique. Et aujourd'hui, les mégots qui sont retrouvés, on sait que c'est quand même la plupart du temps sur un acte un peu d'incivilité. Mais pour revenir au sujet de la bouteille plastique, ça va plutôt être justement ce problème de matériel urbain, parfois, qui n'est pas forcément adapté, et le fait qu'il y en a tellement qu'en fait, même si on garde juste un pourcentage constant qui échappe, on va dire, au circuit classique de ramassage des déchets, ben en fait, ce nombre augmente mécaniquement.
D'accord, effectivement. Alors, est-ce que, parce que le citoyen va jeter ou faire dans les toilettes, je dirais, ou jeter à la poubelle, et le vent, effectivement, va ramasser, je dirais, des déchets et les rejeter à l'eau. Ça, c'est une partie de la pollution. Mais l'autre partie de la pollution, c'est la pollution industrielle. Est-ce qu'elle est importante ?
Aujourd'hui, nous, c'est pas ce qu'on retrouve le plus en proportion, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup aujourd'hui d'emballages ménagers qui est vraiment lié à ces modes de consommation qui ont évolué, hein, avec beaucoup plus de ventes à emporter. Aujourd'hui, par exemple, on retrouve quand même des gobelets, par exemple, de café, parce qu'en fait, de plus en plus de personnes maintenant consomment le café à emporter entre leur lieu de travail et leur domicile, ou leur lieu où ils vont aller faire leurs courses, etc. Par exemple, c'est des choses qui n'existaient pas avant. On buvait notre café dans une tasse en céramique, chez soi, au bureau ou au restaurant, mais pas sur le à emporter. Donc c'est quand même l'emballage ménager qui est aujourd'hui un des problèmes. Mais il y a quand même en effet toujours de la pollution liée un peu plus au côté industriel ou en tout cas commercial. Donc je parlais de l'ostréiculture qui est liée à une filière. Par exemple, on a les granulés plastiques industriels. Donc ça, parfois on les appelle dans notre jargon les larmes de sirène, mais c'est un mot beaucoup trop beau pour ce que c'est. C'est des toutes petites billes plastiques qui sont la base pour pouvoir produire du plastique. Du coup, c'est des toutes petites billes qui ressemblent à des billes de verre. Et en fait, qu'on reconnaît, par exemple, quand on est sur la plage, parfois, on est obligé d'y aller au tamis parce qu'on a presque l'impression que c'est des grains de sable. Mais non, c'est des grès, donc c'est des granulés plastiques industriels qui vont être la base. Et en fait, ça, on en retrouve dans la nature parce qu'il y a des fuites de containers, des containers qui vont aller d'un point A à un point B et qui vont être renversés à l'eau et du coup qui vont se déverser. Mais on constate aussi, par exemple, là, on est en train d'investiguer à l'étang de Berre près de Marseille où on retrouve une quantité hallucinante de ces granulés plastiques parce qu'il y a des usines de plasturgie à côté et donc il y a des fuites dans la nature. Et même s'il y a des législations qui existent pour encadrer ça, pour dire qu'il doit y avoir zéro fuite de ces granulés plastiques dans la nature, ben, on constate que il y en a quand même. Donc on est en train d'investiguer, par exemple, spécifiquement sur ce sujet-là, qui est du coup plus un sujet industriel. Et après, pour d'autres problèmes, par exemple, d'autres sujets qu'on va avoir, par exemple, ça va être les pneus, qui ne vont pas forcément être laissés là par des particuliers, mais peut-être par des revendeurs, garagistes, on ne sait pas. Mais ça se trouve plutôt dans le côté un peu de décharge comme ça, c'est plutôt dans la forêt. On les trouve beaucoup moins, nous, sur le littoral ou sur les fleuves, qui est quand même ce qu'on regarde aujourd'hui le plus. Donc voilà. Donc je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a spécifiquement dans certains endroits, mais aujourd'hui, c'est quand même beaucoup l'emballage ménager qui est le plus gros du problème.
D'accord. On va revenir après la pause musicale sur la deuxième partie de l'émission où je vous demanderai effectivement l'impact sur la faune marine, la faune aquatique. Et on fera un voyage, on continuera à faire notre voyage avec Sarah. On fait une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Ne quittez pas.
Pirates des mers, insoumis volontaires, la peinture des corsaires sur tes navires en guerre, du noir sur le bleu, de la houle et du feu, Paul Watson, ton drapeau, la colère dans tes yeux. Au prix de ta vie, tu es l'homme, c'est assez, sont assez d'ennemis. Personne n'arrête à la barre Paul Watson. Partout.
l'Antarctique, défier le Japon, tirer les Féroé de leur vieille tradition, la crosse du berger, le trident de Neptune, l'espoir du guerrier sous un rayon de lune, se dire que les hommes ne possèdent pas la terre, en chaque espèce en somme l'humanité entière. L'arme du dauphin, le chant de la baleine,
le mépris des humains, des massacres à la chaîne. Watson navigue dans le bleu loin des terres. Watson, où le chant des baleines résonne. Watson, ce que les hommes font à la mer. Watson
sont bien dans le thème de l'océan, le non-respect des humains, comme d'habitude, pour beaucoup de choses d'ailleurs. On est aujourd'hui de retour dans l'émission, après cette musique avec Sarah Chouraki de Wind of Ocean, sur le problème de la pollution marine, les plastiques en mer, essentiellement les plastiques et d'autres polluants, bien entendu, puisque la pollution, ça concerne beaucoup de choses. Alors, Sarah, une question qui me vient à l'esprit après la première partie de l'émission. 1% des... Vous me disiez qu'1% des rejets sont en surface et l'autre partie plonge au fond de l'océan, alors.
Oui, c'est ça. Mais en fait, le plastique se micro-fragmente. En fait, donc on parle souvent de macro-déchets pour tout ce qui est visible à l'œil nu, à peu près reconnaissable, etc. Et en fait, après, avec le vent, avec le sable, avec le sel, avec l'eau, avec différentes choses, en fait, il va se séparer en plastique de plus en plus petit. Donc, on va parler de micro-plastique, on va parler de nanoplastique, et à devenir quasiment parfois invisible à l'œil nu. Même sur les plages, hein, j'invite les auditeurs à le tester, en fait, à regarder. Parfois, on va se dire, ah, cette plage est propre parce qu'il n'y a pas de gros déchets visibles. Et puis, en fait, quand on va commencer un peu à jouer dans le sable, on va se rendre compte que le sable, il a quand même des couleurs un peu trop flashy pour en être. Et en effet, c'est souvent des microplastiques qui se seront déversés, du coup, sur les plages. Et du coup, c'est principalement ça qui va créer des dégâts sur la biodiversité et sur les animaux. Puisqu'en fait, il y a plusieurs façons, qu'il y a un impact sur la biodiversité. La première, c'est l'ingestion. C'est qu'évidemment, les animaux vont confondre en fait la nourriture avec les microplastiques et donc ils vont en ingérer. Donc ça, c'est vraiment un gros enjeu. Parce que du coup, aujourd'hui, on retrouve, je crois que c'est un poisson sur trois qui a du microplastique, enfin qui est pêché et qui a du microplastique dans son organisme. Donc en fait, à la fin, en plus, on ne fait pas de dessin, mais comme nous, on mange aussi du poisson, bah, forcément, ça peut à un moment donné aussi se retrouver chez nous. L'autre gros chiffre, je crois que c'est encore plus choquant, c'est qu'il y a 99% des oiseaux marins aussi qui ont du plastique dans l'océan, puisqu'en plus, eux, ils vont foncer dans l'eau pour repérer ce qu'ils vont pouvoir manger. Donc c'est des chiffres qui sont assez incroyables sur l'ingestion. Et après, l'autre problème, c'est le fait que les animaux vont se retrouver piégés dans des déchets, notamment par exemple tout ce qui est filet de pêche, où en fait l'animal il va se retrouver prisonnier, il ne va pas réussir. Il y a souvent ces images chocs de la tortue justement qui n'arrive pas à se sortir de ses filets et qui finalement du coup vont se retrouver à ne pas pouvoir continuer de se nourrir ou vivre et qui vont mourir doucement là-dedans. Donc c'est sûr que le plastique qu'on voit à la surface versus celui qui se microfragmente et qui va du coup avoir un impact sur la biodiversité, bah, malheureusement il y a tout un monde avec qui se passe quoi.
Alors, l'impact que ça peut avoir sur la faune aquatique, est-ce qu'il est énorme ?
Ah bah oui, aujourd'hui c'est sûr, enfin, encore une fois, hein, l'océan, c'est quand même 72% de la surface planétaire, on a plein d'animaux marins et on sait que c'est les prés, enfin, que ça a été la genèse en gros de toute la biodiversité et même nous-mêmes de notre humanité. Donc en fait, entre le fait que aujourd'hui, il y a un chiffre aussi que moi j'aime bien citer, qui est qu'en 2050, on prévoit d'avoir plus de plastique que de poissons dans les océans en termes de masse. Parce que nous, on va continuer à émettre de plus en plus de plastique, la production ne fait qu'augmenter. Et à côté de ça, ce même plastique est entre autres en train aussi de tuer en fait les poissons. Donc en fait, on est en train de nous-mêmes en fait se tirer une balle dans le pied. On sait bien aussi que l'océan regorge de poissons et qu'il y a aussi une grosse base d'alimentation pour plein d'humains. Donc en fait, forcément, ça aura une incidence sur l'humain, que ce soit sur sa capacité à se nourrir de produits qui viennent de l'océan sans avoir un impact sur la santé, parce que du coup, sinon, on va continuer à en avoir de moins en moins, et en plus, les poissons qu'on pêchera seront de plus en plus pollués par du plastique. Et en plus, nous-mêmes, on sera aussi contaminés par le plastique, parce que là, on parlait des animaux, mais on sait que les humains, on absorbe de plus en plus de plastique, même rien qu'en respirant, parce qu'on sait, là on parle de l'océan, mais en fait on sait aussi que les pneus de voiture, par exemple, libèrent beaucoup de microplastiques dans l'air, et on en ingère nous-mêmes aujourd'hui beaucoup.
D'accord. Alors, en fait, on s'empoisonne nous-mêmes, si je comprends bien. C'est-à-dire que si le poisson ingère le plastique, quand on mange le poisson, on s'empoisonne avec le plastique que le poisson a mangé.
Exactement. Et aujourd'hui, c'est une des thématiques qui revient le plus aussi par rapport au plastique et sur lesquelles les scientifiques se posent, c'est le lien avec la santé. La semaine prochaine, il y a un gros sommet international qui s'appelle One Health Summit qui va justement parler des sujets de la santé de manière générale, mais aussi de faire le lien entre plastique et santé. Parce qu'au final, le plastique, c'est un matériau qui est relativement nouveau en fait à l'échelle de l'être humain. Hein. Je veux dire, c'est quand même un produit qui a commencé à être vraiment exploité au XXe siècle. Donc on a eu peu finalement de recul. Ça a été quelque chose où on s'est dit, ah ben génial, on a découvert un matériau qui est hyper pratique pour plein d'usages, qui est pas cher, qui est léger, donc on a commencé à en mettre partout. Et comme tout un peu ces révolutions, en fait, on a commencé à en mettre partout avant de se poser des questions sur quels seraient les impacts sur la planète et sur l'être humain. Et aujourd'hui, on en est là, en fait, on en est à ce que les scientifiques alertent beaucoup sur le problème du plastique. Et c'est aussi pour ça que depuis, les premières lois sur le plastique, elles ont commencé en France à partir de 2015. Donc, je veux dire, c'était il y a 10 ans, c'est hyper récent, entre guillemets, à part que les industries se sont emparées de ce plastique et en ont mis partout avec des projections qui sont dingues. Et il faut savoir, pareil, que le plastique, en fait, c'est un dérivé du pétrole. Donc en fait, il y a eu aussi tout un engouement du secteur pétrolier de manière générale aussi pour ce matériau. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un énorme problème entre les effets qu'on voit et le fait qu'il faudrait réduire la production de plastique et changer des usages comme revenir un peu plus à la consigne ou même juste réduire notre consommation et des lobbies industriels qui sont associés au pétrole qui sont de plus en plus forts.
Alors, est-ce que ça a un effet sur les mammifères marins comme les dauphins, les baleines ou pas, ou juste sur la faune aquatique des petits poissons ?
Non, bah non, non, ça a un effet surtout parce qu'en fait, dans tous les cas, les gros mammifères se nourrissent aussi des plus petits. Donc en fait, que ce soit le plancton qui en a, bah, du coup, les gros en auront aussi. Donc non, non, bien sûr, pour le coup, il y a vraiment ce côté un peu chaîne alimentaire qui existe et qui est vraiment hyper présente. Donc non, non, pour le coup, ça a un impact sur l'ensemble des mammifères et encore une fois, même l'humain, donc sur tout le monde.
D'accord. Donc, si je comprends bien, tout est impacté, c'est-à-dire que toute la faune aquatique en elle-même est impactée par la pollution qu'on produit. En fait, voilà, on est des gros pollueurs et on impacte notre propre planète où on s'empoisonne nous-mêmes, tout simplement. Les déchets qui sont en mer, les plastiques, restent sur le rivage ou ils partent au large?
Bah, en fait, il y a plusieurs choses. En fait, aujourd'hui, on parle de 7 continents de plastique. Alors, souvent, on parlait d'un 7e continent plastique, d'ailleurs, qui, du coup, disait qu'il y en avait un autre qui était en train de se créer. Dans les faits, c'est quand même pas complètement correct parce que, en fait, c'est plus qu'il y a des gires océaniques qui font qu'en fait les plastiques se retrouvent en fait dans ces gires océaniques. Et donc on estime à peu près à 5 gires océaniques qui concentrent du coup ces plastiques. Donc en fait on peut complètement dire que les plastiques s'en vont, donc encore une fois coulent ou restent en surface, donc il y a un peu les deux, et qu'en plus de ça, du coup, sont dans ces gires, donc dans 5 endroits, différents espaces du globe, dont ce fameux 7e continent dont on parle parfois, qui a priori, la taille, ce serait 3 fois la taille de la France. Donc je veux dire que c'est énorme et c'est complètement visible à l'œil nu. Pour autant, on voit aussi que c'est rejeté sur les rivages. Nous, là, au mois de mars, par exemple, on a justement fait des opérations de ramassage qu'on a appelées post-tempête, parce que là, avec les tempêtes qui ont eu lieu, notamment sur la façade atlantique, ça a rejeté des déchets sur les plages. C'était hallucinant. Enfin, moi, je vais beaucoup vers le secteur de la Cano et on se promenait en famille. Et en fait, mais les plages sont immondes et sont recouvertes de déchets, parfois des gros macro-déchets. Et on a fait un ramassage là au Porche, on avait lancé un appel à mobilisation. On a eu plus de 150 personnes qui sont venues soutenir nos actions pour justement constater cette pollution, ramasser pour éviter en fait qu'avec après les grandes marées, ces déchets repartent en mer. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça. C'est ce que nous, on disait, c'est pas l'océan qui déverse ces déchets, c'est nos déchets qu'on a déversés dans l'océan qui, avec les tempêtes, parfois reviennent en effet boomerang, nous rappeler en fait l'ampleur du problème et qu'au mois de mars, les communes, comme il n'y a pas encore les touristes, ils n'ont pas encore envoyé les tracteurs pour enlever les déchets de manière hyper macro. Et donc là, on les voit vraiment. Et en fait, c'est vrai qu'on avait des citoyens qui étaient hyper choqués. Et nous, c'est un moment où en fait, en plus de ramasser, donc on fait cette partie documentation, donc on arrive sur la plage, on met une bâche et en fait, après, on trie et on caractérise pour montrer voilà ce qu'on retrouvait. Donc comme d'habitude, il y avait les filets de pêche, il y avait les bouteilles d'eau, il y avait les bouchons, il y avait encore des cotons-tiges, même si la loi les a interdits depuis un bon moment. Il y avait des déchets ostréicoles. Et sur cette plage-là, on a même eu une bouée de chenal qui a été déversée, qui est arrivée du Canada. Donc ça montre vraiment que les déchets en fait voyagent des kilomètres et des kilomètres, pris dans ces marées, dans ces courants océaniques. Et donc parfois, notamment pendant les tempêtes, ils se déversent sur nos plages et on les voit revenir. Et ça permet aussi de se rendre compte que l'océan est plein de déchets, quoi.
D'accord. Quand on peut lutter contre la pollution en surface, on ne peut pas lutter contre la pollution en profondeur. Est-ce que je me trompe? Ce sont des déchets plastiques qui sont, je dirais, éparpillés et en même temps qui sont ingérés par les poissons, donc ils sont microscopiques. On ne peut pas lutter contre.
Non, mais c'est pour ça qu'en fait, exactement. Donc en fait, on sait qu'il y a, voilà, il y en a qui vont chercher à essayer quand même de ramasser parce qu'il y en a. Donc voilà, mais en fait, nous, ce qu'on dit, c'est que le problème, c'est qu'on a, c'est la production qui ne fait qu'augmenter. Donc en fait, il faut couper l'eau du robinet en fait avant que le bain déborde. Donc en fait, nous, la vision qu'on a dans l'association, c'est vraiment la réduction de la production de plastique en priorité. Parce qu'encore une fois, on a mis en place des usages qui ont changé ces dernières années parce qu'il y avait ce plastique qui était disponible et parce qu'en fait, les industriels en ont mis partout. Donc même quand, en fait, à titre individuel, on a envie de faire des efforts, c'est super compliqué parce que le plastique est partout et qu'en fait, c'est difficile d'avoir des alternatives. Donc nous, vraiment, ce qu'on prône, c'est la réduction, c'est de se dire il faut qu'on arrête de consommer autant parce que forcément il y a des fuites dans la nature et que donc il y a un effet de masse qui fait que ça va forcément se retrouver et qu'une fois que c'est dans l'océan, c'est trop tard. Parce que comme vous l'avez dit, les macros deviennent des micros qui finissent ailleurs, qui coulent, qui sont dans les mammifères marins et qu'on est en train de contaminer tout ça. Donc nous, on prône vraiment pour la réduction. Donc encore une fois, et le problème qu'on a, c'est que la France a été plutôt ambitieuse sur ses lois contre la pollution. Donc en fait, on a des lois qui existent depuis maintenant quelques années et qui se durcissent au fil du temps. Par exemple, on est censé interdire les emballages plastiques à usage unique d'ici 2040 dans la loi AGEC. Donc c'est vraiment ce côté de, il faut d'abord réduire, la loi le dit. Il y a une stratégie qui s'appelle les 3 R qui dit réduire, réemployer, recycler. Et donc nous, évidemment, on prône d'abord la réduction, ensuite le réemploi, la mise en place de consignes, etc. Et à la fin, le recyclage. Mais c'est vraiment cette chaîne-là, parce qu'une fois que c'est en mer, c'est trop tard, et qu'en effet, ramasser, c'est bien pour documenter, pour alerter, et puis quand même, entre guillemets, enlever quand même cette pollution de la nature, donc on ne dit pas que ça ne sert à rien, mais il faut, à côté, beaucoup agir pour la réduction.
En fait, ce qu'on arrive à comprendre, c'est que c'est une prise de conscience, tout simplement. Il faut une prise de conscience des industriels, du citoyen, tout simplement. On met des emballages carton et on arrête les emballages plastiques, comme c'est déjà en route, déjà depuis un certain temps, pour éviter la pollution des océans et d'empoisonner nos chers poissons, tout simplement. Comment on peut vous connaître sur Internet ?
Alors du coup, nous on a notre site wingsoftheocean.com sur lequel il y a pas mal de choses. Il y a notamment un livre blanc qu'on a écrit qui donne pas mal d'informations là-dessus pour ceux qui voudraient aller plus loin. On donne aussi souvent les prochaines dates pour nous rejoindre sur le terrain parce qu'il y a toujours des personnes qui nous disent moi j'ai envie d'aider, qu'est-ce que je peux faire, etc. Donc par exemple, si vous êtes dans le coin de Bordeaux, on a un prochain ramassage qui a lieu le 19 avril. À la plage Supertune, en coalition avec d'autres associations. Donc ça, pareil, vous pouvez trouver les informations sur notre site. Et après, on a un compte Instagram qui est assez actif, pareil, sur lequel vous pouvez nous suivre. Donc ça fait déjà pas mal de choses. On a une newsletter aussi à laquelle vous pouvez vous inscrire, évidemment, pour continuer à avoir des informations. On essaie, en tout cas, d'informer de tout ce qu'on fait. Et notamment, là, en ce moment, on a un enjeu aussi sur les municipales, donc comme encore une fois, nous on pense qu'il faut agir à un niveau territorial, on avait alerté les candidats aux municipales sur les dangers justement de la pollution plastique et de leur responsabilité et la capacité de faire des choses aussi au niveau local. Donc comme là, il y a eu des nouvelles équipes en place, on va continuer de les contacter grâce à nos bénévoles pour les faire bouger aussi.
Merci Sarah énormément pour ce c'est un beau témoignage, oui, effectivement, mais ce que nous faisons à la planète n'est pas très beau. Merci infiniment.
Merci à vous.
Merci Sarah, merci beaucoup. Merci à Wind of the Ocean pour ce beau témoignage, ce témoignage sur la pollution marine. Est-ce que nous devons en comprendre pour faire changer les choses, pour faire changer notre mentalité, évidemment. Donc merci beaucoup. La prochaine émission, surveillez bien sur les portes de la connaissance d'Odeur Radio. On la parole est sur la page Facebook, les portes de la connaissance d'Odeur Radio. Surveillez bien, vous verrez quelle sera la prochaine émission. Normalement, nous devrions accueillir les oiseaux migrateurs la prochaine fois. Si tout va bien, on fera un voyage avec nos chers oiseaux et on ira voir nos oiseaux migrateurs, comment ils migrent, d'où ils viennent, comment ils partent en saison d'hiver et comment ils reviennent. Voilà, merci beaucoup, merci Sarah et à une prochaine fois. Au revoir.
Au revoir.
Les portes de la connaissance, une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué.